Oui. Alors, la dernière fois, ça remonte au mois de septembre. Bon, c'est comme ça, hein, c'est pas, il n'y a rien de grave, hein. Avant de prêcher, je voudrais vous donner des nouvelles de. Bon, il y aura bientôt une assemblée générale, des nouvelles de moi, de nous. Bon, ça fait maintenant plus. Je fais partie des membres fondateurs avec certains, hein, des membres historiques. Je n'ai pas dit le canal historique, mais les membres historiques de l'Église qui ont fondé l'Église. Il y a en 83, on était au Cameroun à l'époque, et puis Jean m'avait envoyé une lettre, Jean Lénard, hein, pour me dire, on a besoin de, je sais plus, 20 personnes pour se constituer en, c'était 25 pour se constituer en Église, en association cultuelle très précisément, vis-à-vis de la loi. Et il dit, est-ce que vous seriez d'accord? Alors on était missionnaire au Cameroun, on a dit oui. Donc 83, vous voyez, ça fait 35 ans. Ça fera 35 ans au mois de, je crois que c'est en novembre, je crois, quelque chose comme ça. Et puis quand on est rentré, bah, naturellement, on est devenu membre de l'Église. On l'était déjà, hein. Et puis à la fin des années 80, hein, ça ne m'en rajeunit pas, je faisais partie déjà des. J'avais pas 30 ans, hein, je faisais déjà partie des responsables. J'ai été pasteur des jeunes, hein, pendant 15 ans. Je me suis aussi occupé de l'école du dimanche, hein, puis après c'est mon frère qui a pris le relais, puis j'ai aussi été pasteur ici pendant une dizaine d'années, et puis en 2012, après m'être interrompu, Jean-Michel est devenu pasteur, et je lui ai dit, ben voilà, je t'accompagne, hein, pendant 6 ans, hein, donc 2012-2018, et là, voilà, je ne suis plus membre, enfin, je suis plus responsable, je ne fais plus partie des responsables de l'Église, hein, depuis une semaine, donc voilà. Alors je le dis non pas par nostalgie, mais avec reconnaissance, parce que c'est formidable, hein, d'avoir pu servir Jésus, hein, dans cette église locale, et puis avec mon épouse évidemment, hein, avec nos enfants. Alors qu'est-ce qui va se passer pour nous maintenant? Peut-être que vous le savez, mais c'est pas sûr que vous le sachiez. On a depuis maintenant, on habite 20, depuis plus de 20 ans. À Thumery, hein, dans le nord, là-bas. Et puis, depuis 20 ans, à Thumery, il se passe beaucoup de choses, hein. Il y a tout un témoignage chrétien avec le Château Blanc, mais ça date même d'avant, avec les Castellani, tout ça. Et puis, il y a tout un témoignage chrétien qui est fait au travers des associations. Il y a eu beaucoup, beaucoup de choses. Et puis, cette église a aussi participé à pas mal de choses avec les chrétiens de Thumery. Et maintenant, depuis longtemps, hein, ça fait peut-être 10 ans, même plus, il y a ce qu'on appelle on a fait des parcours alpha. Et donc, il y a tout un petit groupe de gens que l'on suit dans des groupes de maisons. On a deux réunions mensuelles dans les maisons, alors, dont la nôtre, mais aussi sur Thumery, sur Vahany et sur Falampin. C'est du post-alpha, c'est-à-dire des gens qui ont suivi Jésus, qui ont suivi le parcours alpha, et puis qui sont tout doucement en train de se donner au Seigneur. Donc c'est très encourageant. Et il se trouve que 2018, il y a eu, même 2017, il y a eu un peu une précipitation des événements. Mon fils Étienne et Marie, qui sont de l'église de Flins, qui sont toujours à l'église de Flins, ont acheté une maison sur Thumery, la maison des Morton. Pour ceux qui les connaissent, les mêmes Morton ont pu vendre leur maison à nos enfants et ont acheté un château, château Cogé, château Béguin. Et c'est une très belle bâtisse. Et il est prévu le 25 mars de cette année d'y faire notre premier culte. Alors, le culte, ça sera cool, hein, sympa. On va se rencontrer en fin de matinée, puis après, il y aura un culte, voilà, très informel, et puis suivi d'un repas. Alors, l'idée, c'est que ça devienne régulier, peut-être une fois par mois. On ne se met aucune pression. Enfin, moi, personnellement, je ne me mets pas d'objectif, voilà. Mais voilà, on va vers quelque chose qui semblerait être une église, une création d'église. Alors, il faut se réjouir, hein, parce que les églises, c'est parce qu'il y en a pas, il y en a pas de trop, hein, dans cette région, et voilà, donc il faut se réjouir. Alors pour l'instant, Annie et moi, on reste membres de cette église, hein, encore pour un certain temps. Je souhaite que les relations continuent, hein, ce serait normal qu'on continue à se voir, à prier les uns pour les autres, qu'on soit encouragés, que vous nous bénissiez. Alors qu'est-ce que Thumri va devenir? On ne sait pas. Est-ce que ça sera une église classique? Je ne sais pas. On est juste disponible, ouvert à ce que le Seigneur veut. On se réjouit gentiment de ce que le Seigneur va faire. On est aussi à l'écoute de ce qu'il faut faire. Alors, c'est un peu une situation inédite. Je pense que chaque église a sa particularité, hein. Chaque église a son ADN. Cette église, elle a son ADN aussi, hein, sa particularité. C'est ce qui fait la richesse du corps du Christ, hein. Le corps du Christ est un. Partout où il y a Jésus qui est honoré, adoré, c'est l'église de Jésus, hein, où qu'elle soit. Et pourtant, chaque église a son ADN. Et cette église a son ADN. Elle a 35 ans. Je pense qu'une des caractéristiques de cette église, c'est qu'elle... il y a la loyauté. Hein, c'est ce que je disais tout à l'heure au pasteur. C'est que ce qui a forgé cette église, elle lui a permis de tenir au travers du temps, c'est des gens qui étaient fidèles et qui étaient loyaux. Et ça, c'est pas évident partout. Hein, dans toutes les églises qui sont autour de nous, il y a eu des déchirements, il y a eu des divisions, parce que les gens... n'avaient pas cet état d'esprit de s'engager les uns vis-à-vis des autres, être loyal les uns vis-à-vis des autres. Et ça, c'est quelque chose qui nous a été transmis par Jean Lénard et qu'il faut continuer, c'est qu'il faut être loyal, il faut être fidèle. Et pourtant, ce que je vais dire, il y en a peut-être, ils vont se dire, mais de quoi ils parlent, mais cette église a tangué, cette église, elle a failli couler, elle a eu des crises, même des crises graves. Mais ce qui a permis à l'Église de tenir, c'est la grâce de Dieu, évidemment. Mais c'est aussi que nous, responsables, même quand on n'était pas d'accord, on était solidaires. Solidaires les uns des autres. Et je peux vous dire que, parfois même avec Jean, il ne faut pas croire, c'était pas tout facile. C'était pas tout facile, loin de là. Mais Jean, il disait, ça reste entre nous et on ne quitte pas cet endroit avant de se mettre d'accord. Et ça... Croyez-moi, ça a fait ses preuves. Et donc cet ADN-là de l'Église, il faut que ça continue. Un autre aspect, je pense, important de cette Église, c'est l'amour pour Israël. Ça, ce n'est pas partout dans les Églises, mais ça, il faut continuer aussi. Il faut continuer cet amour pour Israël. C'est nos racines, c'est nos frères aînés dans la foi. Et ça fait partie de cet ADN de l'Église. Puis peut-être une troisième chose qui a été dit souvent par des visiteurs, c'est que c'est une Église accueillante, qui est hospitalière, qui reçoit les gens, qui aime les gens. Et ça aussi, c'est quelque chose à cultiver, à entretenir. Alors maintenant, l'Église, elle a 35 ans, elle a évolué, elle s'est enrichie de personnes extérieures, et puis elle suit son chemin. Mais voilà, il faut rester dans la confiance, dans cette pensée que le Seigneur, c'est lui le patron, hein. Il a dit « Je bâtirai l'Église, hein. Je bâtirai l'Église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. » C'est lui le patron, c'est lui le chef. Donc ne pas s'inquiéter, voilà, il est le responsable en chef. Et voilà, il va pouvoir, il a toujours pourvu. Moi, quand je regarde dans le rétroviseur, quand je vois ma propre vie, et puis même cette Église, le Seigneur a toujours pourvu en personne, en biens, en finances, en tout, enfin, ce bâtiment, enfin, le Seigneur a pourvu et il va continuer à pourvoir. Nous, notre responsabilité, c'est quoi? Restons fidèles. Restons fidèles. Aimons-nous. Voilà, supportons-nous, même quand ça coince. Comportons-nous aussi en adultes, quand il y a des problèmes, et il y en a, eh bien, autant que cela dépende de nous, allons régler nos problèmes. Ce n'est pas normal qu'il y ait des passifs, ce n'est pas normal que des gens ne s'entendent pas depuis des mois, des années, ne s'entendent pas. Alors qu'on est chrétien, on est enfant de Dieu, on a l'Esprit de Dieu en nous, on a l'occasion de se pardonner, puis on ne le fait pas. Soyons responsables, laissons le Saint-Esprit nous pousser vers la réconciliation s'il y a besoin. vers le pardon. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire en introduction de... C'est même pas une introduction, mais vous encourager et nous encourager à persévérer dans la même direction, hein. Vous savez, on dit souvent aux mariés, quand on les prépare, le succès, la clé de la réussite dans un couple, dans un mariage, c'est pas de se regarder l'un l'autre, c'est pas de se regarder soi-même, mais se regarder ensemble dans la même direction. Ben, l'Église, c'est un peu ça, c'est un mariage. C'est un mariage. Et voilà, nous sommes l'épouse, et en tant qu'épouse, avec l'époux, qu'est-ce qu'on fait? On regarde dans la même direction. Et cette même direction, c'est le royaume de Dieu. C'est le retour du Seigneur. C'est ça, notre objectif. C'est cette direction-là vers laquelle on doit tendre. Amen. Voilà. Alors, mon message de ce matin, c'est un verset que je vais vous donner tout de suite, tiré d'un psaume qui m'a toujours beaucoup parlé. Ce verset, c'est le psaume 107, verset 20, qui dit... Dieu a envoyé sa parole pour c'est-à-dire les hommes, pour guérir les hommes et les arracher à la tombe. Dieu a envoyé sa parole pour les guérir et les arracher à la tombe. Et ce verset se trouve au cœur d'un psaume, le psaume 107, que je vais vous lire en partie. Dites merci. Alors, c'est une traduction moderne que j'ai. Hein. Alors, vous n'allez peut-être pas vous y retrouver. Même affiché, ça sera un peu différent. Dites merci au Seigneur, car il est bon et son amour est pour toujours. Qu'ils disent cela, les gens que le Seigneur a libérés. Qu'ils disent cela, ceux que le Seigneur a arrachés à l'ennemi. Ceux qu'il a rassemblés de tous les pays, de l'Est et de l'Ouest, du Nord et du Sud. Alors, on ne sait pas qui a écrit ce psaume, il n'y a pas l'auteur, mais c'est un psaume universel qui parle de l'action de Dieu parmi les hommes. Et puis ensuite viennent quatre tableaux. Premier tableau, le désert. On nous a parlé du désert la semaine dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez. Certains marchaient un peu partout dans le désert, dans des endroits perdus. Ils ne retrouvaient pas le chemin pour aller dans un lieu habité. Ils avaient faim et soif. Ils étaient découragés. Alors, dans leur malheur, ils ont crié vers le Seigneur, et le Seigneur les a délivrés de leur peur. Il les a conduits tout droit vers un lieu habité, qu'il remercie le Seigneur pour son amour, pour ses actions étonnantes envers les humains. Oui, il a donné à boire à ceux qui mouraient de soif, il a nourri généreusement ceux qui mouraient de faim. Premier tableau, des gens perdus dans le désert. Deuxième tableau, des prisonniers. D'autres étaient en prison, dans une cellule sombre. Ils étaient très malheureux, attachés avec des chaînes. Ils ont refusé d'obéir au commandement de Dieu. Ils ont méprisé le projet de Dieu très haut. Dieu les a brisés par la souffrance. Ils sont tombés et personne n'est venu les aider. Alors, dans leur malheur, ils ont crié vers le Seigneur. Et le Seigneur les a sauvés de leur peur. Il les a fait sortir de leurs cellules sombres. Il a cassé leurs chaînes. Qu'ils remercient le Seigneur pour son amour, pour ses actions étonnantes envers les humains. Oui, il a brisé les portes de bronze. Il a fait sauter les verrous de fer. Troisième tableau, les fous. D'autres étaient devenus stupides, tellement qu'ils se conduisaient mal. Ils se rendaient malheureux par leur faute. Ils ne pouvaient rien avaler. Ils étaient proches de la mort. Alors, dans leur malheur, ils ont crié vers le Seigneur. et le Seigneur les a sauvés de leur peur. Il a envoyé sa parole pour les guérir. Il les a arrachés à la tombe. Qu'ils remercient le Seigneur pour son amour, pour ses actions étonnantes envers les humains. Qu'ils offrent des sacrifices pour le remercier avec des cris de joie, qu'ils racontent ce qu'il a fait. Quatrième tableau, la tempête, des marins pris dans une tempête en pleine mer. D'autres sont partis en bateau pour travailler en pleine mer. Ces gens-là ont vu que le Seigneur a fait ses actions étonnantes sur la mer. D'un seul mot, il fait venir la tempête et le vent a soufflé et soulevé les vagues. Leur bateau était lancé vers le ciel, puis descendait vers le fond de la mer. Les marins se sentaient vraiment très mal. Ils ne pouvaient plus tenir debout. Ils marchaient comme des gens qui ont trop bu et ne savaient plus rien faire. Alors, dans leur malheur, ils ont crié vers le Seigneur et le Seigneur les a délivrés de leur peur. Il a calmé la tempête et les vagues sont restées tranquilles. Les marins étaient remplis de joie en voyant le calme de la mer. Le Seigneur les a conduits au port pour qu'ils voulaient atteindre. Qu'ils remercient le Seigneur pour son amour, pour ses actions étonnantes envers les humains. Qu'ils disent sa grandeur dans l'assemblée du peuple, qu'ils chantent sa louange au conseil des anciens. Amen. Et je vais m'arrêter là. Voilà donc quatre tableaux où des humains sont dans des situations extrêmes, dans une grande difficulté. En partie par leur faute. Les stupides, comme il est dit dans le deuxième tableau, ils se sont mal conduits, il nous est dit, par leur faute. Et parfois, souvent même, les gens sont dans leur situation par leur propre faute, par leur mauvais choix. Par leur mauvais choix. Ils sont responsables de leur état. Et dans le premier tableau, dans le deuxième tableau, celui des prisonniers, il nous est dit, ils ont refusé d'obéir au commandement de Dieu. Ils ont méprisé le projet de Dieu. Donc voilà des gens qui sont dans des situations extrêmes. Et ils sont en proie à la peur. Ils ont peur. Et combien on est dans une société où beaucoup de gens ont peur. Et même les chrétiens, je suis étonné. Je vais pas mal dans des églises et je vois, mais beaucoup de gens ont peur. Ont peur de l'avenir, ont peur de tomber malade, ont peur de mourir, ont peur de ceci, ont peur de cela. La peur. La peur. La peur, c'est un sentiment humain. C'est normal. C'est prévisible. Mais je dirais que quand on est enfant de Dieu, persister dans la peur, ça, il y a un problème. À un moment donné, il faut choisir. Est-ce que je continue à avoir peur ou alors je choisis le camp de la foi? Ça, c'est très important, il me semble. On traverse tous et on va tous traverser des moments difficiles. La maladie, la séparation, les difficultés de toutes sortes. Et puis ça génère en nous, c'est anxiogène, hein, ça génère en nous des peurs, des inquiétudes. Et Jésus nous dit, ne vous inquiétez de rien. À un moment donné, il faut aussi dire stop, stop, je crois, j'ai foi, j'arrête d'avoir peur. Donc voilà des gens qui ont peur, mais tous les quatre tableaux, qu'est-ce que font les humains? Dans leur malheur, ils crient à Dieu. Voilà, ils crient à Dieu. Ça, c'est le bon réflexe. Et j'aime bien là, ce que disait Sylvain la semaine passée, ou quand il était là, la seule distance qui nous sépare de Dieu, c'est quoi? La prière. Formidable quand même. Dieu est proche de nous, et la seule séparation entre eux et nous, séparation qui peut être comblée, c'est la prière. Crier à Dieu, c'est prier. Ils crient à Dieu qui les sauve. Dans chaque tableau, à chaque fois, Dieu intervient. À chaque fois, Dieu secourt. Parce que c'est sa nature à Dieu. Il est le libérateur. Il est le sauveur. C'est sa nature de sauver. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. C'est sa nature. Il ne peut pas supporter de voir ses humains souffrir. C'est sa nature, c'est son ADN. Il est le sauveur. Jésus est le Sauveur. Il est le Libérateur. Et à chaque fois, ces humains qui vivent des situations difficiles, les prisonniers, ceux dans le désert, les fous, les marins, eh bien, sont libérés, sont secourus, sont sauvés et arrivent à bon port. Et à chaque fois, ils louent Dieu. Et le but du salut, ce n'est pas le salut. Le but du salut, c'est que les gens louent Dieu. Le but du salut, c'est qu'ils connaissent Dieu. Le but du salut, c'est que les gens deviennent des adorateurs. Et nous sommes les prémices de cela. Nous avons été sauvés pour être des adorateurs. Et le désir de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. C'est ce qu'il a dit dans 1 Timothée 3. Tous les hommes soient sauvés. C'est le désir de Dieu. Alors, est-ce que ce désir sera accompli? Je ne sais pas. Je l'espère. En tout cas, le Seigneur compte aussi sur nous pour que son désir soit satisfait. Que tous les hommes parviennent à la connaissance du salut et soient sauvés. J'y reviendrai tout à l'heure. Et puis, on voit dans chacun de ces tableaux l'amour de Dieu pour les perdus. Voilà. Jésus a dit, je suis venu pour les malades. Je suis venu pour les perdus. Voilà. Dieu aime les perdus. Jésus est venu pour les perdus. Les quatre tableaux nous montrent la bienveillance du Seigneur pour les captifs. On parle ici des prisonniers physiques qui sont en prison. Mais combien de gens sont prisonniers mentalement? C'est incroyable. On est dans un pays où il y a beaucoup de gens qui sont en prison mentale, par les maladies mentales, par, je dirais même, des influences démoniaques, qui sont aussi esclaves des médicaments. Combien de gens sont en prison? Eh bien, le Seigneur éprouve de la bienveillance pour eux. Et il y a cette image que j'aimerais reprendre. Il remercie le Seigneur pour son amour, pour ses actions étonnantes envers les humains. Il a brisé les portes de bronze. Il a fait sauter les verrous de fer. Il n'y a pas une porte blindée qui résiste à la puissance de Dieu. Il n'y a pas une porte blindée qui résiste à l'amour de Dieu. On voit aussi que Dieu a pitié des fous. Dieu a pitié des gens perdus. Et qu'est-ce qu'il fait? Comment s'y prend-il? Il envoie sa parole. Il envoie sa parole pour les guérir. Il envoie sa parole pour les guérir. Et d'où elle vient cette parole? Et comment s'exprime-t-elle? Par qui? La semaine dernière, à Lens, Sylvain nous parlait du désert. Que beaucoup d'hommes de Dieu dans la Bible, dans l'Ancien Testament et aussi dans le Nouveau Testament, sont passés par le désert, qui est un passage obligé. Il nous a parlé de Jacob, il nous a parlé de Moïse, il nous a parlé de Jésus. Pour tout cela et d'autres, ça a été un temps d'épreuve. Ça a été aussi un temps de rencontre avec Dieu. On sait de quelle façon. Et pour chaque fois, pour chaque cas, ça a aussi été un temps où une parole a été donnée. C'est le Dieu dans Moïse, par exemple, au buisson ardent. Moïse a entendu une parole. C'est une parole où Dieu se définissait, je suis celui qui suis, et il y avait une parole d'envoi, va vers mon peuple. Jésus dans le désert, c'était un peu particulier. Là aussi, il tentait par Satan, qui connaît la parole de Dieu, eh bien, il a répondu par la parole, par la même parole de Dieu. Et il a résisté à la tentation et il a vaincu le malin. Donc, le désert, c'est aussi un temps où la parole, elle est reçue. Où avant d'être donnée, il faut qu'elle soit reçue. Et dans les temps que je vous invite à avoir avec le Seigneur, Jean-Michel parlait de disait, j'espère que vous êtes des gens de prière. Je renchéris, j'espère que vous êtes des gens de prière, que vous prenez le temps de prier, d'avoir une communion avec le Seigneur. Je ne peux pas le faire à votre place. Et dans ces temps, mettez-vous à l'écoute du Seigneur. Moi, je suis à chaque fois content de voir Sylvain. C'est super. Mais devenons comme lui. Devenons comme lui, devenons des Sylvains. Mettons-nous à l'écoute du Seigneur. Mettons-nous à l'écoute du Seigneur. Recevons ce qu'il a à nous dire. Soyons à l'écoute, devenons prophétiques. Prophétique, c'est quoi? Tout simplement entendre ce que Dieu dit et le répéter. Et Dieu parle, nous le savons, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on n'y prend pas garde. Mettez-vous à l'écoute du Seigneur. Mettons-nous à l'écoute du Seigneur. Donc cette parole, eh bien, parfois il faut l'attendre. Parfois il faut rester silencieux, tranquille, faire taire nos pensées qui nous envahissent, vous savez, on est tous pareils, hein, envahis par un tas de trucs. On se met devant Dieu, on dit « Ah ben mince, il faut que je fasse cette course. Ah non, bon, je reviens au Seigneur. » Puis on continue. Et puis, « Ah oui, il faut aller chercher le gamin à l'école. » Non, je reviens au Seigneur. Ouais, on est tous comme ça, pas vrai? Disciplinons nos pensées. Mourad Zian disait « Les pensées, ça se discipline. » Mettons-nous à l'écoute du Seigneur. Rappelons-nous ce qu'a dit Sylvain. La distance entre nous et Dieu, c'est quoi? La prière. Soyons des priants, soyons des prieurs. Et je vous encourage aussi à prier en langue. Moi, je prie beaucoup en langue. Notamment quand je suis dans ma voiture, je prie en langue. Quand je n'ai plus rien à dire, quand les situations me dépassent, je prie en langue. Il y a une puissance hein, dans la prière en langue. Et si vous n'avez pas le don des langues, demandez-le. Demandez au Saint-Esprit, Saint-Esprit, donne-moi ce don. Hein, vous allez vous édifier vous-même, vous construire vous-même. Priez en langue. C'est une bonne façon aussi de résister à la tentation. Priez en langue. Priez. Donc voilà, ce temps de désert, c'est le temps où la parole, elle est reçue. Et c'est un passage obligé, mais c'est un passage. Et cette parole reçue, elle peut ensuite être donnée. Pas vrai? Quand on a reçu une parole, on la donne. Et il nous a été dit à maintes reprises d'être obéissant. Si nous recevons une parole, eh bien donnons-la. Donnons-la. Pourquoi? Parce que c'est une parole, troisième chose, qui fait la différence. C'est une parole qui fait la différence, ou qui doit faire la différence. Ce n'est pas une parole anodine. Qui est-ce qui a déjà reçu des paroles de Dieu parmi vous? Oui, des paroles qui font la différence. Et parfois, Dieu, il utilise même des non-croyants. Moi, ça m'est déjà arrivé de recevoir des paroles d'un non-croyant et me dire, mais waouh, Dieu me parle. Dieu me parle. C'est des paroles qui nous touchent, qui font la différence. Je vais vous donner une petite anecdote. On était à un goûter de dames, je me souviens encore, et puis il y a eu après un temps de ministère, on a prié pour une dame. Et puis, je crois que je l'ai déjà raconté cette histoire. Et puis, je ne sais plus, c'est une dame déjà d'un certain âge, on sentait qu'elle était, qu'elle aimait Dieu, mais en même temps qu'elle était vraiment blessée, profondément blessée. Et puis, voilà, on prie pour elle avec ma femme, et puis je reçois une parole de Dieu qui est assez, assez bizarre, parfois c'est bizarre, dit « Dis-lui qu'elle est belle ». C'est embarrassant, quoi. Et puis, c'est un peu facile, quoi, parce que bon, vous voyez, bon, je suis un homme, mais ma femme était là quand même, mais bon. Et puis, vous savez, on veut parfois être plus malin que le Seigneur, et puis tourner ses paroles en prière, voyez, on est plus spirituel que Dieu, quoi. Et puis, c'est ce que je fais, et puis, voilà. Mais ce n'est pas ça que Dieu me demande. Dieu me dit, dis cette parole précise, bref. Et puis, dans le temps de prière, cette dame, elle commence à pleurer, puis elle dit, dans la prière, mon mari m'a laissé tomber, il m'a quitté il y a longtemps, et il m'a dit, parce que je suis moche. Et là, le Seigneur m'a dit, tu vois, la parole pour elle, c'est ça. C'est pas tourner autour du pot, c'est ça la parole. Et là, je lui demandais pardon au Seigneur, et puis je lui ai donné cette parole. Le Seigneur dit que tu es belle. Et ça l'a comme apaisé, oui, ça l'a, lui a fait du bien. Pourquoi? Parce que c'était la parole qu'elle avait besoin. C'est une parole qui faisait la différence. C'est pas mes paroles, mon blabla, mais c'est la parole de Dieu. Et c'est une parole qui guérit. Dieu envoie la parole qui guérit. Et cette parole, elle se donne, elle se transmet par vous, par nous. Jésus ne faisait pas autre chose. Il dans son ministère, il prêchait, vous le savez bien, et il proclamait la bonne nouvelle du royaume de Dieu, et il l'a démontré par la puissance, par des signes et des prodiges. Jésus est la parole incarnée, la parole faite chair. Alors vous allez me dire, c'est Jésus. Mais oui, c'est Jésus, d'accord. Mais il a dit aux 12 et aux 70 la même chose. Prêchez, et Matthieu 10, 7, 8, hein, prêchez le royaume de Dieu, prêchez le royaume de Dieu est proche, donc parlez, prêchez, puis guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Parole proclamée, parole démontrée. Et c'est pareil dans Luc 19. Et Paul dit dans 1 Corinthiens 2, 4, « Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. » Une parole, une prédication puissante qui repose sur l'Esprit Saint pour que les gens soient fondés, leur foi soit fondée sur la puissance de Dieu. Donc une parole qui fait la différence. Et dans les quatre tableaux que je raconte ici, c'est une parole qui a fait la différence pour tous ces gens. Et qui c'est le porte-parole, le porte-voix ? C'est vous, c'est moi, c'est nous, c'est l'Église. L'Église, elle apporte cette parole et elle porte cette parole de guérison au monde. Nous sommes les yeux de Jésus. Nous sommes les yeux de Jésus. Nous sommes les mains de Jésus. Nous sommes les pieds de Jésus. Hein ? L'Évangile de paix, les chaussures de l'Évangile de paix. Nous sommes la bouche de Jésus. L'Église est la bouche de Jésus. Et à propos de la bouche, Proverbe 18, 21 nous dit « La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. » Autrement dit, la bouche, la langue, a le pouvoir de vie et de mort. Et ça, c'est vrai dans l'absolu. C'est vrai dans toutes circonstances. Et même dans le monde séculier, c'est vrai. Qui n'a pas été, impacté par le diagnostic d'un médecin, par les paroles produites par un médecin, parce qu'il a l'autorité, il a la blouse blanche, et sa parole, elle a du poids, elle a du sérieux. Quel enfant n'a pas été impacté par un instituteur ou un professeur qui lui a dit des paroles, bonnes ou mauvaises ? Et qui sont restés dans la mémoire. Les paroles ont du poids, les paroles ont de l'importance. Quand Macron parle, on l'écoute, ses paroles ont du poids, parce qu'il a cette autorité de président, n'est-ce pas ? Nous, en tant que parents, nous avons aussi des paroles qui peuvent impacter nos enfants, positivement ou négativement. Moi, je suis prof, et combien j'entends des élèves me dire « mais moi, je suis nul en anglais. Je suis nul en maths, je suis nul. » Mais qui t'a dit ça ? Ah oh, ben je le sais, mais qui te l'a dit ? Ah oh, ben tel prof, il le croit, on lui a dit, il le croit, et puis voilà. Ça l'a impacté négativement, il ne va pas faire d'effort, parce qu'il est nul. Vous voyez ? Les paroles tuent, mais les paroles donnent la vie aussi. Et Jésus, dans son ministère, comment il a donné la vie ? Par sa parole. Et à chaque fois, c'était une parole précise. À l'un, il va dire « tes péchés te sont pardonnés ». À l'autre, il va dire « ta foi est grande, ta foi t'a sauvé ». À l'autre, il dira « va en paix ». À l'autre, il dira « ne crains pas, crois seulement ». À chaque fois, une parole précise. C'est une parole qui donne la vie. Et cette parole, maintenant, c'est nous qui la donnons par le Saint-Esprit. Nous sommes les porte-voix du Seigneur. Jésus a dit « tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel ». Tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Comment on lit et on délie ? En déclarant, en parlant. Et quand vous êtes dans la prière et que vous priez pour des situations inextricables, des gens qui sont dans des situations impossibles, entrez dans cette foi déclarative. Vous dites, vous priez, je ne sais pas, votre enfant qui est loin du Seigneur, tel problème relationnel, telle maladie, etc. Soyez dans la foi déclarative. Proclamez, mes enfants, tous mes enfants, serviront l'Éternel. Et soyons dans la foi, dans cette foi qui déclare. Vous liez et vous déliez. Mais à contrario, si vous dites des choses négatives, vous liez les gens négativement aussi. Et vous vous liez aussi négativement. Vous voyez ? Ça va ensemble. Nous avons une puissance qui est notre propre bouche. Le royaume de Dieu, c'est notre héritage. Je ne sais pas si vous avez jamais lu cette phrase dans le Nouveau Testament qui dit « Nous sommes héritiers de Dieu ». Vous vous rendez compte ? Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Héritiers de Dieu. Nous héritons de quoi ? Ben de son royaume. Et nous héritons de Dieu lui-même qui habite en nous par son esprit. Nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Tout ce que Christ a nous est donné. Tout ce qu'il a nous est donné. Le royaume de Dieu nous est donné. À nous de le faire fructifier. C'est notre héritage. C'est aussi notre mandat. C'est notre mandat. Il y a beaucoup de « allez, allez-y, allez, allez, allez ». Et nous, peut-être, dans les églises, on a tendance à dire « venez, 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 venez ». Non, Jésus dit « allez, 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 allez dans le monde entier, proclamer l'Évangile, allez créer des églises, allez sur les marchés, dans les villes, partout, allez, allez, allez prêcher, allez guérissez ». C'est nous, c'est notre mandat. Demandons au Saint-Esprit ses lumières pour savoir comment faire. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Alors, c'est le choix de Dieu. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est le choix de Dieu de transmettre son royaume au travers de gens comme nous. Moi, si j'avais été Dieu, je n'aurais pas fait pareil. Hein. Parce que me connaissant et connaissant ceux qui sont autour de moi, je dis, waouh, ça ne vaut pas grand-chose. Hein. Mais Dieu, il est autrement, il n'est pas moi, et tant mieux. Dieu, il a confiance en nous. Et il a foi. Quand on parle d'avoir la foi de Dieu, c'est que Dieu, il voit au-delà de nous-mêmes. Il voit au-delà de nos limites. Et son choix, c'est de passer par nous. C'est son choix. Et tu es la seule personne la plus appropriée pour parler à ton voisin. Ce n'est pas moi qui vais parler à ton voisin, c'est toi. Tu es la seule personne la plus appropriée à parler à ton fils. Et je termine par un verset qui se trouve dans Éphésiens 3, 10 et qui nous dit que les dénominations, les autorités dans les lieux célestes, donc le monde spirituel, connaissent maintenant par le moyen de l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu. Au travers du peuple de Dieu, de l'Église avec un E majuscule, mais de cette Église en particulier, de celle de Thumri, de toutes les Églises autour, au travers de l'Église, Dieu manifeste sa sagesse. Et cette sagesse, elle est infiniment variée. Tout à l'heure, je parlais d'ADN. Voilà, nous avons notre ADN ici, mais Lance a son propre ADN. Évidemment, l'ADN, il est le même parce que c'est Jésus. Mais il y a des particularités. C'est parce qu'il y a cette variété, cette richesse. On n'est pas tous pareils, on n'est pas des clones. Hein. Il n'y a aucune église qui se ressemble. Et pourtant, elles sont toutes les mêmes. Elles sont toutes les mêmes. Vous pouvez aller en Nouvelle-Zélande, vous pouvez aller au Cameroun, vous pouvez aller aux États-Unis, en Angleterre. Vous sentirez chez vous. Parce qu'il y a Jésus. Et pourtant, elles sont différentes. Elles sont différentes. Pas seulement à cause de la langue et de la culture, mais elles sont différentes parce qu'il y a une richesse dans le peuple de Dieu. Et cette richesse reflète la sagesse infiniment variée de Dieu. Alors voilà, nous sommes cette parole donnée pour guérir. Dieu a envoyé sa parole pour les guérir et les arracher à la tombe. Seigneur, je te prie pour que nous soyons, devenions ou redevenions ces réceptacles de ta parole. Seigneur, rends notre oreille attentive, comme celle des disciples. Nous voulons te dire, les uns et les autres, pas seulement maintenant, mais tout le temps, parle, ton serviteur écoute. Parle, ta servante écoute. Combien nous avons faim et soif de t'entendre parler. Seigneur, conduis-nous. Tu connais nos attentes, tu vois aussi nos déceptions, nos frustrations. Mais Seigneur, tu as choisi de passer par nous. Et nous te remercions. Et nous te demandons de continuer à nous utiliser pour ta gloire et à nous parler. Alléluia. Restons un petit peu dans le silence. Laissons le Saint-Esprit nous communiquer sa pensée. Alléluia. Si nous recevons quelque chose et que nous pensons que c'est pour l'édification du corps de Christ, ça peut être une parole de connaissance, ça peut être une pensée, une image, un verset, une phrase. Alléluia. Communiquons-la.
Quand on était allé à l'église à Anzin, j'avais reçu une petite carte d'une dame. La petite carte, c'est « La prière est à l'âme ». Ce que les ailes sont à l'oiseau et la voile au bateau.
Amen. Je prends. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a une autre parole?
Je pense que le Seigneur dit ceci à quelqu'un qui se pose la question s'il doit avoir la Sainte Cène ou pas. Parce qu'il a été déçu, il est un peu aigri. Et le Seigneur lui dit, je suis